Bon, comme vous savez, aujourd'hui c'est 31 octobre. Le monde célèbre ce qu'il appelle Halloween. C'est une fête très obscure, si vous voulez. C'est quelque chose où le monde célèbre la mort. Les gens, les enfants, les adultes, tout le monde, il essaie de s'habiller comme des dragons, comme des démons, comme des satans même aussi. Peut-être c'est pas si connu ici en France. Peut-être c'est pas une fête très célébrée, mais quand même. Dans les écoles, pour les petits enfants et tout ça, ils font la sorcière, ils demandent les bonbons. C'est quelque chose international où il y a des milliers de personnes qui célèbrent. Ils se mettent des costumes et tout ce qui est mauvais, normalement, tout ce qui est avec la sang, tout ce qui est des bras coupés, des yeux d'or, etc., ça va aujourd'hui. Et en fait, j'ai regardé sur Internet, il y a quelque chose qui s'appelle le Zombie March. C'est comme la parade zombie. Et c'est quelque chose que ça se passe dans plusieurs villes au monde. Par exemple, au Canada, Ottawa, Vancouver, Toronto. Il y a aux États-Unis, bien sûr, Denver, Sacramento, Seattle, San Diego. Et ici en Europe aussi, Prague, Londres, Dublin, même à Shanghai, Amérique du Sud, Brésil, le Mexique, en Australie, la ville de Brisbane aussi. Il y a des milliers de personnes qui, juste parce que c'est Halloween, aujourd'hui, ce soir, ou quelques jours avant, ils s'habillent comme des monstres, et ils sortent, ils font une parade de tout ce qui est obscur, tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est mauvais normalement. Et si vous pensez que la France n'est pas le cas, vous avez tort. Il y a des zombie marches aussi à Lyon, à Marseille, à Toulon. Il y a eu l'année dernière ici à Nice aussi. À Paris, il y a 10 jours, le 18 octobre, il y a eu 1800 participants qui sont marchés les Champs-Élysées. Vous pouvez aller sur Google, vous trouvez tout ça, vous allez voir les vidéos. Et c'est quelque chose vraiment que ça fait peur, c'est comme un film d'horreur vraiment. Et le maquillage qui se met, c'est vraiment quelque chose de très réel. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les gens du monde, les fêtes diaboliques ou les fêtes obscures, ils n'ont aucun problème de se manifester en public. Ils sont toutes les seuls, ils sont pas craintes, ils sont pas peur de parler aux gens, d'inviter aux gens via Facebook. Vous pouvez trouver aussi des groupes de zombies, vous pouvez trouver des invitations pour se réunir dans votre quartier ou dans votre ville et faire la zombie march aussi. Le monde et le diable, il prend de puissance, il prend des domaines, il se manifeste en public. Aussi, la semaine dernière, à Oklahoma City, aux États-Unis, une église satanique avec 80 personnes, ils ont fait des rituels dans le centre-ville, dans la place publique. Ils se sont moqués de la foi chrétienne, bien sûr, mais ils ont fait des rituels. Et les gens, ils ont juste regardé, je suis sûr, Oklahoma City, si vous voyez, c'est le sud, c'est ce qu'il appelle la ceinture de la Bible. Apparemment, c'est la partie aux États-Unis où ils sont plus de croyantes, mais ils n'ont rien fait. C'est une manifestation satanique et les gens ils sont contents avec ça. Aussi à l'Angleterre, vous avez lu peut-être dans les nouvelles, il y a la religion de druides. C'est des gens qui font les louanges aux arbres, au ciel, au soleil. Et voilà, maintenant c'est une religion connue, c'est reconnu par l'État. Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que comme j'ai dit, c'est juste une introduction pour vous montrer que le monde et les forces obscures, ils n'ont aucune crainte, aucune peur de parler autour d'eux. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va parler de l'évangélisation. Si vous avez une Bible, on va aller au Romains, le livre de Romains, chapitre 10. Et pendant que vous tournez, chapitre 10, livre de Romains, je vais vous poser trois questions. Est-ce que nous, comme chrétiens, nous, comme ceux qui sont choisis, qui sont élus, qui sont sauvés par Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, est-ce que nous, on a la même zèle de partager la lumière de l'Évangile? Ou c'était quand la dernière fois que vous avez frappé la porte de votre voisin ou vous avez parlé avec quelqu'un de l'Évangile avec la même zèle et sans aucune peur comme les zombies dont on a parlé? Ou peut-être dans les dernières 12 mois, dans cette année 2010, combien de fois vous avez partagé l'Évangile avec votre bouche, pas avec des actions, mais vraiment d'engager quelqu'un avec l'Évangile, une conversation pour partager l'Évangile. Avec ces trois questions, on va commencer Romains chapitre 10 et on commence au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Après verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Répète. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils ne sont pas entendus parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il écrit, qu'ils sont le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. On va ouvrir un petit peu ces versets, on va voir c'est quoi exactement qu'on peut faire, comment on peut partager la foi, comment est-ce qu'on peut faire une différence dans ce monde. Paul, il a dit déjà dans le verset, bon, entre verset 9 et verset 13, il a dit que le salut c'est pour tout le monde. Il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est ouvert pour tout le monde. Et aussi, il dit qu'il y a quelque chose à faire avec croire que Jésus est le Seigneur. Ces deux éléments, c'est au verset 9 et verset 13 que Paul explique que le salut est ouvert pour tous et qu'il faut faire quelque chose avec cette personne qui s'appelle Jésus. Il faut croire qu'il est le Seigneur. Mais c'est quoi exactement? Croire que Jésus est le Seigneur, autrement dit, on peut l'appeler l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Mais c'est quoi l'Évangile? On parle de l'Évangile, on dit qu'il faut partager l'Évangile, il faut croire, il faut partager, parler de l'Évangile. Mais c'est quoi exactement? On doit l'avoir vraiment, vraiment clair, vraiment. On doit comprendre ce concept vraiment pour pouvoir le partager, bien sûr, mais aussi, d'ailleurs, il faut le comprendre pour nous-mêmes. Peut-être il y a des gens entre vous que vous êtes sauvés, ou vous pensez que vous êtes sauvés parce que quelqu'un vous a partagé quelque chose, mais si je vous demande c'est quoi l'Évangile ou c'est quoi la bonne nouvelle, vous avez difficulté à exprimer verbalement. Donc, on va voir ce que l'Évangile n'est pas, d'abord. L'Évangile, ce n'est pas une promesse de prospérité financière. L'Évangile, ce n'est pas une promesse de santé pour toute la vie. L'Évangile, ce n'est pas une promesse d'un mariage sans problème ou sans défaut. Ce n'est pas aussi non plus une promesse d'une vie sans problème, une promesse de que nos enfants ils seront libres, ou ils vont marcher toute la vie dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas une promesse de ça. Si vous avez reconnu ou si vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est pas non plus l'Évangile. Même les démons ils reconnaissent, vous vous souvenez? Les démons ils reconnaissent ça c'est pas l'Évangile. Il faut le reconnaître bien sûr, mais c'est juste une petite partie. Si vous pensez que l'Évangile c'est avoir un objectif dans la vie, c'est pas non plus ça. C'est aussi une partie. L'Évangile c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est l'Évangile, c'est le salut, c'est oui, le salut de l'homme de la colère de Dieu, d'un saint Dieu, Dieu saint. Paul, dans Romains 1, 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juif premièrement, puis de grec. » Après, en Corinthiens, il explique en Corinthiens 15, 3, 4, ils disent « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Alors, l'Évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. Il nous a sauvés de la colère, de la condamnation éternelle. Mais c'est quoi ça? Pourquoi Christ est mort pour nos péchés? Vous pouvez expliquer ça? Réfléchissez si vous pouvez expliquer à quelqu'un. Si vous êtes en train de témoigner, si vous êtes en train de partager avec quelqu'un et vous dites « Oui, Christ est mort pour toi », ils disent « Mais pourquoi ?» Qu'est-ce que vous allez dire? Dans six points très simples, je peux vous dire juste une idée. Numéro un, c'est que Dieu, il est saint, il est parfait, il est bon. Oui, on ne peut pas l'approcher si on a le péché. On ne peut pas l'approcher si on a déjà péché. Alors ça, c'est le numéro 2. On a tous déjà péché. On est tout, tous nés avec le péché, la nature de pécheur. Moi, je n'ai jamais appris à mon fils comment il faut mentir, comment il faut dire des mensonges, mais ils le connaissent. Je n'ai jamais expliqué comment il faut être égoïste, mais ils le connaissent aussi. C'est juste la nature humaine. Et nous tous, on a péché. Ça, c'est le numéro 2. Alors, le numéro 3, c'est qu'un jour, on va être tous devant lui. C'est notre créateur, mais c'est aussi notre juge. Et il va nous juger par rapport à ses standards. On peut être de bonnes personnes, si vous voulez. On peut être de nice guys, oui. Mais si on fait le standard avec le standard de Dieu, avec la loi qu'il a donnée, on ne passe pas le test. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'il vient le jugement. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 3 vient le jugement. C'est que parce que Dieu, il est bon, il doit punir le péché. Alors, mais numéro 4, c'est que Dieu, il est riche en miséricorde. Et il a envoyé Jésus, il a vu une vie parfaite, il est monté sur la croix, il a souffert, il est mort dans notre place. Maintenant, Dieu, comme le juge, il peut voir le sacrifice de Jésus à notre place, il peut nous laisser partir, pas parce qu'on est bonne personne ou parce qu'on est saint, mais parce que quelqu'un a payé notre amende. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 4, le 5, c'est ça, c'est que quelqu'un a pris notre place pour recevoir la colère de Dieu. Et le numéro 6, c'est nous, en réponse, on doit se repentir, il faut détourner de péché et il faut mettre la confiance en Jésus. Ce n'est pas de lever la main dans un culte ou passer ici. C'est pas de chanter des chants, c'est pas de prier une prière, c'est vraiment de se repentir, c'est quelque chose de personnel entre vous et le Seigneur, et mettre la confiance en Jésus. C'est pas juste de croire, mais c'est de faire confiance en lui. C'est comme si vous êtes dans un avion, il faut sauter parce que l'avion va s'écraser. Vous devez vraiment mettre votre vie dans le parachute. Si vous croyez que le parachute c'est juste là, quand même, vous allez être écrasé, vous allez tomber, vous allez mourir. Mais si vous prenez le parachute et vous l'utilisez, vous mettez votre vie dans lui, c'est la même chose avec Jésus. C'est ça, la confiance dans l'Évangile. Donc, dans juste quelques paroles, si quelqu'un vous dit pourquoi Christ est mort pour nous, on a dit parce que Dieu, il est saint, il est bon. Nous, on doit être face à lui, on va mourir un jour. On va être jugé pour ses standards. Et comme on ne passe pas, lui, il est riche en miséricorde. Il a envoyé Jésus, il a pris notre place. Il a ressuscité, il a payé notre amende. Et nous, on doit se repentir, on doit faire confiance en lui. On regarde ça parce que c'est quelque chose de très important par rapport à l'évangélisation. Si vous ne connaissez pas l'évangile, c'est quoi que vous allez partager? Ça, je l'ai mis dans 6 points, mais bon, vous pouvez faire vos points comme vous voulez. Et je pense que c'est très simple de comprendre. En plus, l'évangile, c'est quelque chose de très, très simple. Après, on continue avec le passage. On arrive au verset 14 et 15, où Paul, il demande cette série de questions qui sont un petit peu... ils sont donnés déjà, on connaît la réponse. Ils disent, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Si on le dit autrement, Paul est en train de dire, il ne peut pas croire en Jésus, il ne peut pas appeler, invoquer le nom du Seigneur s'il ne croit pas. Mais il ne peut pas croire s'ils ne sont jamais entendus. Mais il ne peut pas jamais entendu si personne ne le dit, si personne ne le partage, et personne ne va le partager s'ils ne sont pas envoyés. Et quand on lit ça, quand on pense à envoyer, partager, tout ça, peut-être on pense à quelqu'un dans une culture, dans la jungle, une île, désert, quelque chose, où il faut y aller comme des missions, il faut aller, il faut prêcher. Mais ce n'est pas le cas. Tout autour de vous, il y a des gens qui ne sont jamais entendu l'évangile. Je vous dis. Il y a des gens dans l'avion, dans l'hôtel, dans l'autobus, dans l'école. Tous les gens que vous voyez dans une journée, il faut bien les regarder parce qu'il y a juste 2 options pour chacun de ces personnes. Soit ils vont aller au ciel, soit ils vont aller en enfer un jour. Et vous avez une responsabilité morale vers eux, vers les voisins, vers les gens que vous voyez tout le temps. Il n'y a pas de différence et l'âge, ou la position, la profession, etc. Vous vous souvenez de Michael Jackson, oui, comme il a préparé le tour mondial le plus important dans sa vie. Il avait que 50 ans ou 52 et un jour il est parti juste comme ça. Il a vendu 11 billets par seconde. Il n'attendait pas la mort, mais il est arrivé. Et la même chose, ça peut arriver avec les voisins ou avec l'ami, avec les collègues. Tout ce monde que vous voyez chaque jour, dans une sorte, ils sont des zombies aussi. Parce qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils ne le savent pas, mais ils sont morts. Éphésiens 2, 1, ils disent que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. S'il n'y a pas la lumière de l'Évangile, s'il n'y a pas la résurrection par l'Esprit, ils vont continuer morts. Alors vous, vous savez de collègues, vous savez de membres de votre famille, des voisins qui ne sont jamais entendus, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas sauvés. Si vous voyez quelqu'un et vous voyez qu'il est en train de respirer, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'Évangile. Cette année, non, l'année dernière, ma femme, elle était dans un château dans la région. Elle est en train de parler chose des affaires avec un homme très riche. Cet homme, il a peut-être 60 ans. Il est en train de parler et tout d'un coup, ma femme, il a commencé à témoigner. Et après qu'il a fini de partager l'Évangile, le monsieur, il a dit, mais moi, j'ai jamais entendu ça. Il a 60 ans, il habite en France, il est riche, il n'a jamais entendu parler de la croix de Jésus. Peut-être il célébrait Noël, je ne sais pas, mais il n'a jamais entendu. Et si vous partagez la foi régulièrement, vous allez voir que ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de monde qui, même, ils n'ont pas besoin de rejeter parce qu'ils n'ont jamais entendu même. Ça, c'est triste. Donc nous, La seule façon qu'ils vont entendre l'Évangile, c'est par notre bouche, par nos paroles. Romains 10, 17, ils disent « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ est l'Évangile, ce qu'on a vu à tout à l'heure. Alors on doit vraiment parler. Peut-être vous connaissez le concept qui s'appelle évangélisation amicale. C'est quelque chose où les gens ils invitent les gens à l'église, ou manger chez eux, ou regarder un film, ou vous essayez d'être une bonne personne, vous aidez à la dame à, je sais pas, faire la peinture, ou mamie, papy, traverser la rue, etc. Et après, vous pensez un jour, ils vont me demander, et moi, je veux le partager. Mais moi, je vous dis que l'évangélisation amicale, ce n'est pas l'évangélisation et ce n'est pas l'amitié non plus. Ce n'est pas l'amitié parce qu'on n'aime pas ces gens suffisamment pour pouvoir les partager. Et ce n'est pas l'évangélisation parce que peut-être ils ne vont jamais entendre le message. Peut-être dans 5 ans, ils vont déménager ou ils vont mourir. Ou vous allez déménager ou quelque chose va se passer, mais ils ne vont jamais entendre le message. L'évangélisation amicale, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas l'amitié vraiment. Imaginez, vous êtes le 10 septembre. Vous travaillez dans le World Trade Center à New York et vous avez 100 collègues dans votre bureau et vous dites « Oui, moi je suis un bon chrétien, je vais organiser pour Noël, c'est Noël qui s'approche, non, je vais organiser quelque chose dans mon église, une petite parade où je vais faire des gâteaux, je vais donner à tout le monde et après peut-être je vais donner des traités ou je vais peut-être partager ou ils vont me demander peut-être un jour. » Et le jour d'après, c'est le 11 septembre et tout le monde est écrasé. C'est quoi imaginez, quelle responsabilité vous avez-vous? Quel scénario si terrible? Parce que vous avez eu l'opportunité de sauver ou de partager le salut avec cette personne, mais ils sont partis d'un jour au lendemain. Alors, notre voisin, votre collègue, il peut aussi mourir, ou vous pouvez développer une relation pendant 5 ans et jamais partager l'Évangile. Si vous croyez ce que la Bible dit, que ceux qui ne sont pas en Christ, ils seront condamnés pour l'éternité, il y a une urgence dans nos vies et il y a une responsabilité morale pour partager l'Évangile. Vous avez la clé pour la vie éternelle. Si vous comprenez ça, il faut le partager. Si vous avez une petite croix, non, ce n'est pas suffisant. Si vous pensez qu'un jour, quelqu'un va voir votre croix, il va vous demander « Ah, vous êtes chrétien ? Oui, hein ?» Vous connaissez l'évangile. C'est pas suffisant. Peut-être le jour, ça va jamais arriver. Si vous pensez qu'inviter les gens au concert de Noël ici ou une autre part, c'est pas suffisant non plus. Il faut partager, il faut verbaliser, on peut dire ça, verbaliser l'évangile. Il faut le mettre en parole. On doit parler. Parler de l'évangile, c'est un produit de la joie parce qu'on était sauvés. On a chanté tout à l'heure. Cette joie qu'on a d'être sauvé, d'être racheté, d'être enfant de Dieu, comme Carole a prié, c'est une joie qui doit nous motiver à partager l'Évangile. Le livre d'Actes 80, il y a Pierre qui dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir, il faut le partager. Mais aussi, c'est un commandement de Jésus. Vous vous souvenez à Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un commandement. Ça fait quelques mois que j'étudie un petit peu le grec. Et c'est très intéressant cette verset en grec, parce qu'exactement le mot « aller » en grec, ça va dire « aller ». Le mot « fait de toutes les nations des disciples », ça va dire « fait de toutes les nations des disciples ». C'est exactement ça. Il n'y a aucune excuse, c'est un commandement de Jésus pour nous envoyer d'aller partager l'Évangile. Il ne faut pas aller, comme je dis, dans une île ou la jungle, il faut juste aller frapper la porte de votre voisin, ou aller la promenade des Anglais, etc. Il y a tellement de gens qu'ils ne sont jamais entendus. Maintenant, on va voir quatre arguments, quatre raisons pourquoi les gens ne partagent pas. La première chose, c'est parce qu'on a peur. On a peur de l'homme. On a peur de ne pas être qualifié. Écoutez ce que Paul il dit à 1 Corinthiens 2 à 3. Il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu les pensées de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et des grands tremblements. Donc vous, si vous êtes comme Paul, si vous êtes comme moi, si vous êtes faible, si vous avez la crainte, et si vous avez de grands tremblements quand vous allez partager, vous qualifiez aussi. Il ne faut pas avoir la supériorité de langage comme Paul, ou de sagesse, vous qualifiez aussi. Parce que ce n'est pas vous, c'est le pouvoir, c'est dans le message, c'est l'évangile que vous allez partager. Alors, avoir de courage, c'est pas de ne pas avoir la crainte, mais c'est d'agir, même si vous avez la crainte. Imaginez quelque chose qui peut vous aider pour conquérir la peur, la crainte, c'est de penser dans le pire. C'est quoi le pire qui peut me passer si je partage la foi? Alors imaginez que vous avez un traité comme ça, c'est 1 million d'euros, peut-être vous le connaissez déjà, mais ce n'est pas 1 million d'euros, c'est un traité, c'est un traité, c'est un pamphlet, c'est un prospectus, si vous voulez, avec l'évangile ici tout autour. Alors ça, c'est très utile parce que ça aide à commencer une conversation vers l'évangile. Imaginez, vous êtes chez Carrefour. Vous allez penser le pire. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut me passer? Vous êtes chez Carrefour et vous avez la queue, comme toujours. Il y a 50 personnes devant vous et 50 derrière. Vous patientez pour pouvoir payer les affaires que vous avez achetées. Et vous dites, oui, je me souviens, cette conversation, le gars là avec l'accent, il a parlé, oui, peut-être il faut commencer à témoigner, il faut parler. Ah oui, je me souviens, j'ai 1 million d'euros, ok. Je vais tourner, je vais le donner au monsieur derrière moi. Dans ce moment, votre cœur il commence à battre très très fort. Dun, dun, ouais. Les mains ils sont déjà toutes transpirées. Même le traité, il est collé parce que vous avez tellement transpiré. Mais quand même, Vous vous souvenez de cette petite monsieur qui a parlé et qui a dit qu'il faut parler, qu'il ne faut pas avoir la crainte? Vous vous souvenez de tous ces zombies qui ont partagé les ténèbres? Et vous dites, oui, moi, je peux le faire aussi. Alors vous respirez, vous tournez, vous dites, monsieur, voilà votre million, vous avez votre million d'euros, vous êtes en train de trembler, votre corps il bat. Le monsieur vous regarde et il vous dit non. C'est ça, c'est le pire qui puisse passer. C'est tout. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de rien, c'est juste non. Vous tournez et vous dites ok, mais c'est tout. Vous avez déjà essayé, vous avez conquis votre peur, votre crainte. Donc le pire, ce n'est pas pire du tout. Le mieux, c'est que le monsieur va dire, ah, c'est quoi? Et vous commencez une conversation de l'évangile. C'est la question à 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous pensez, ça se passe après la mort? Ça commence une conversation, par exemple. Très simple. Une autre chose pour pouvoir conquérir la crainte, c'est de voir votre motivation. La motivation, ça doit être dans la croix. Oui, le fait que le Fils de Dieu, le parfait agneau de Dieu, il est mort dans votre place, qu'il vous a sauvé d'une condamnation sûre. Ça, c'est la motivation. Mais si moi, aujourd'hui, je vous dis, allez, on va aller ensemble à la promenade des Anglais, pour chaque personne que vous témoignez, pas seulement donner un traité, mais vous allez partager l'évangile, je vais vous donner 20 euros. Quelqu'un, c'est pas trop. Alors je vous dis, je vais vous donner 100 euros. Je vais vous donner 1000 euros. Alors réfléchissez. Si vous pensez, oui, pour 1000 euros, oui, je peux le faire. Je peux faire 3 personnes, 3000 euros dans 15 minutes, c'est bien. Alors votre motivation, ce n'est pas tout à fait mis dans la bonne place. Il faut réfléchir, il faut avoir vraiment une conversation avec Dieu. Parce que la motivation, ça doit être la croix. Si vous aimez l'argent plus que l'évangile ou le fait que Dieu il est mort pour vous, il y a un petit problème, je pense. J'ai un évangéliste américain, quelqu'un, un ami, ils disent ignorez vos craintes et faites-le quand même. C'est vrai, il faut juste ignorer. Oui, j'ai peur de donner ça, j'ai peur de parler avec mes voisins, j'ai peur de même le mettre dans la boîte à lettres, mais quand même je vais le faire. Il n'y a rien qui puisse passer, je vais le faire. Alors, ça c'est la première chose, le premier argument pourquoi on ne partage pas. Le numéro 2, c'est quelqu'un d'autre peut le faire. Alors vous pensez peut-être que Éphésiens 4, ils disent que dans l'église, il y a quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui est évangéliste. Et c'est vrai, c'est marqué ça, mais le rôle d'évangéliste dans Éphésiens 4, c'est quelqu'un qui prend en charge l'entraînement, par exemple, ou il essaye de réunir le groupe pour aller ensemble. C'est quelqu'un qui, on va dire, dirige les efforts d'évangélisation. Mais nous tous, on est appelés à partager, on est tous appelés à témoigner. La grande commission de Matthieu qu'on a vu, c'était donné pour tous les apôtres. Sinon, si c'était donné juste pour un petit groupe, un hindou, l'évangile ou l'église, ça serait morte en même temps que les apôtres. Mais c'est quelque chose donné à tous. Le numéro 3, c'est vous pensez, c'est pas mon don. Je peux pas, c'est pas mon don. Et je vous réponds, c'est pas ton don, c'est pas votre don, mais c'est un commandement de Jésus. S'il vous dit de le faire, c'est parce qu'il sera avec vous. Si on a lu tout à l'heure, ils disent que moi je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc bien sûr, au moment de témoigner, au moment de partager l'évangile, il sera avec nous. Si vous voyez quelqu'un qui marche et qu'il marche tout droit, il va tomber dans une falaise de 1000 mètres de profondeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser, c'est pas mon don, je peux rien faire. Ou vous allez l'offrir un CD de musique chrétienne. Ou vous allez l'inviter à manger des barbecues avec vous. Ou vous allez l'inviter au concert de Noël. Ou vous allez prier pour que Dieu envoie quelqu'un pour l'aider. Ou vous allez aller vous-même et vous allez le tenir, vous allez l'aider vous-même. Je pense que c'est un exemple très clair. C'est notre responsabilité, ok? Si vous dites, je ne connais pas, je ne sais pas quoi faire, alors, très bref, je vais vous dire que nous, on utilise beaucoup le traité, le dépliant, le prospectus, parce que, comme j'ai dit, c'est une façon très, très facile d'établir une conversation et l'amener vers l'Évangile. Tous les prospectus qu'on utilise, ils donnent la loi de Dieu avant la grâce. Et pourquoi on donne la loi de Dieu avant la grâce? Parce que si on ne voit pas qu'on est des pécheurs, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous sauve. Si on ne voit pas qu'on est condamné ou qu'on peut être condamné, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous sauve de cette condamnation. Mais nous, quand on regarde le miroir des 10 commandements, c'était donné exactement pour ça, pour nous montrer qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de quelqu'un. Romains 7:7, Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Et après en Galates 3:24, il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifiés par la foi. Ce n'est pas la loi qui va nous sauver, mais c'est une façon de voir notre vrai état et voir qu'on a besoin de cette personne qui s'appelle Jésus. À la fin de ce culte, de ce message, ma femme et moi, on a préparé un petit paquet. Il y a 10 traités à l'intérieur. Vous prenez, s'il vous plaît, et vous le donnez aux gens. Vous essayez avec un traité. Vous voyez, il y a 1 million d'euros avec Zidane. Les Français, ils l'aiment. Ils vont vous demander encore d'un autre. Et ici, derrière, c'est marqué l'Évangile. Pourquoi on a besoin d'être sauvés? C'est quoi les 10 commandements? Est-ce que vous avez jamais menti? Est-ce que vous avez jamais volé, etc. Il y a aussi 1 million de Michael Jackson avec le message en anglais. On a 2 petits bouquins très bien expliqués aussi, le message de l'Évangile. On a des petites cartes aussi. Le site d'internet en 4 langues aussi. Et tout ça, vous allez l'utiliser. Si vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un, vous pouvez, comme je dis, vous pouvez juste le mettre dans la boîte à lettres. Vous pouvez le laisser dans la voiture des gens. Vous pouvez l'envoyer par la poste. Vous pouvez le mettre dans l'ascenseur. Vous pouvez le laisser partout. Et de petit à petit, je pense que vous allez avoir plus de confiance en vous-même et vous allez être motivé à partager ça. C'est très simple. Il faut juste avoir un petit peu de courage. Il faut être motivé par ce que Dieu il a fait pour vous. Et vous allez voir que presque chaque conversation de l'Évangile que vous allez avoir, c'est exactement comme ça. Si vous parlez avec un bouddhiste, si vous parlez avec un athée, si vous parlez avec même un sataniste, la conversation va être presque comme ça. Il va essayer de se justifier par ses bonnes actions. Et après, vous sortez la loi de Dieu. Il va être étonné qu'il n'est pas une bonne personne par rapport au standard de Dieu et qu'il a un grand problème. Il a besoin de Jésus. Alors, pour finir, on a vu déjà qu'il y a des milliers de personnes qui vont célébrer la mort aujourd'hui, qui vont faire des parades, qu'ils vont s'habiller, qu'ils n'ont aucune crainte, aucune peur de parler, de partager, de se manifester. Il y a 10 jours, comme j'ai dit, à Paris, il y a eu 1 800 personnes qui sont sorties aussi, ils ont partagé ces idées, ils ont fait quelque chose d'horrible en public. Et même si aujourd'hui vous tapez, si vous savez, allez sur Google et vous tapez Zombie Paris, par exemple, vous trouvez aussi les parades et vous trouvez aussi des fêtes qu'ils ont à voir avec des rencontres de couples, des choses bizarres, des choses vraiment de péché, quoi. Alors nous, comme chrétiens, qui on est nés de nouveau, on doit conquérir nos peurs, nos craintes, et on doit partager la foi, on doit partager l'Évangile, pas avec des actions, bien sûr aussi, mais surtout avec la bouche. Il faut parler autour de nous, il faut parler aux gens, aux familles, aux collègues, aux collaborateurs, les voisins, tout le monde. Pas seulement aujourd'hui parce que c'est Halloween, mais chaque jour, 150 000 personnes, ils sont morts. Et comme on a dit, il y a seulement deux chemins pour cette personne, soit le ciel, l'éternité dans le ciel ou en enfer aussi. Vous connaissez le médecin dans cette maladie qui s'appelle la mort, qui s'appelle le péché. Et vous savez, vous devez le partager. C'est une obligation morale. C'est comme si vous connaissez la médecin, ouais, contre le cancer. Est-ce que vous allez la partager ou vous allez la garder pour vous-même? Il faut le partager. Le témoin de Jéhovah, les mormons, les scientologues, ils continuent à parler, ils n'ont aucune crainte, ils frappent les portes, ils donnent des pliants. Le mois de mars, j'étais aux États-Unis, j'ai sorti très tard, il faisait très froid dans un stade de basketball. Et il a eu peut-être une douzaine de jeunes hommes scientologues qui donnaient des pliants de traité, qui invitaient aux gens pour voir un film, les attirer l'attention vers la scientologie. Et ça fait mal, parce que nous, comme chrétiens, qu'on a la vérité, parfois, on reste assis dans les chaises à l'église, on reste assis dans le sofa, dans le canapé à la maison, on est en train de lire la Bible, on est en train de faire des louanges, de prier. Et ça, c'est bien, c'est une partie importante, mais si on ne partage pas, comment est-ce que les gens ils vont être sauvés? Peut-être vous avez aussi quelqu'un qui vous a parlé à vous. Il faut faire la même chose. Aujourd'hui aussi, c'est le jour de la réforme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le jour où Martin Luther il a cloué les 95 thèses dans la porte à l'Allemagne. C'était le début de l'Église protestante, de ce qu'on fait partie aujourd'hui. Et ça a commencé une autre étape de la foi chrétienne. Je vous invite aujourd'hui, ça peut être votre jour de réforme aussi, de la réforme. Vous pouvez faire dans votre calendrier aussi le jour où vous allez changer les choses que vous connaissez avant ou que vous avez fait avant et vous allez être plus active en partageant votre foi. Ça peut être votre jour de la réforme, ok? Dieu merci pour aujourd'hui, pour ce message, parce que tu nous as sauvés, parce que c'était pas quelque chose en nous, mais c'était vous que nous a choisi et c'était vous que nous a pris, que nous a arraché du monde, de la condamnation éternelle qu'on avait. Dieu, je te prie que ce matin, il y a quelque chose que ça se passe dans le cœur de mes frères et sœurs, que on peut commencer à être plus actifs dans l'évangélisation. Dieu, qu'on peut sortir, qu'on peut conquérir nos craintes, nos peurs et qu'on peut partager avec la bouche de Dieu. Je te prie que tu nous encourages et que c'est le 2011, ça peut être une année où on peut réfléchir, on peut regarder les 12 mois derrière, on peut dire oui, au moins, je partageais 12 personnes, mais peut-être plus, bien sûr. Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci au nom de Jésus. Amen.